Nous venons de passer 5 modules sur la description du bilan, passant en revue ses différentes composantes par échéance ou par maturité. Le bilan est un état de situation qui présente, entre autres choses, les capitaux propres. Au sein de ces capitaux propres, un poste présente une importance particulière, il s'agit du résultat. Nous allons passer maintenant 3 modules sur cet élément particulièrement sensible qu'est le résultat, vecteur essentiel de la communication financière des entreprises. Alors, qu'est le résultat et qu'est le compte de résultat? Pour bien le comprendre, partons de la situation en début d'année. Vous avez sous vos yeux le bilan d'ouverture de l'entreprise, formé, ainsi que nous les avons vus au cours des précédents modules, de ses emplois ou actifs selon la terminologie comptable, de ses dettes, le solde entre ses emplois et ses dettes correspondant aux capitaux propres, richesse des actionnaires vu du point de vue du comptable. À la fin de l'exercice, la situation aura changé. Au cours de la période comptable, au cours de l'année qui vient de s'écouler, l'entreprise aura eu une activité. Cette activité lui aura permis, espérons-le, de s'enrichir, éventuellement, dans une situation plus délicate, de s'appauvrir. Dans tous les cas, cette activité aura modifié la richesse de ses actionnaires. Le résultat que vous voyez apparaître ici au bilan est la représentation comptable de la modification de richesse subie ou encaissée, entre guillemets, par les actionnaires au cours de cette période. Le compte de résultat retrace pour l'ensemble de l'année, donc sur une période entre le 1er janvier et le 31 décembre, la variation de richesse de l'entreprise. Le compte de résultat est donc le détail du poste résultat figurant au bilan. Il est formé, comme le bilan, de 2 colonnes. Une première, du côté gauche, du côté du débit, comporte les charges. Ce sont les appauvrissements irréversibles de l'entreprise liés à l'activité qu'elle a eue au cours de la période qui vient de s'écouler. Le côté droit, le côté du crédit, comporte les produits, l'enrichissement de l'entreprise qui est formé pour l'essentiel, mais pas seulement, des ventes. La différence entre les charges et les produits s'appelle le résultat. Le résultat est conventionnellement toujours présenté en bas à gauche du compte de résultat. Pourquoi ? Parce que d'habitude, les produits sont plus élevés que les charges, ou en tout cas, dans une situation optimale, c'est ce que l'entreprise souhaite. Le résultat représente donc le montant nécessaire pour compléter les charges afin qu'elles soient égales aux produits. Pour cette raison, il est présenté prioritairement du côté gauche. Si jamais, espérons que ce ne soit pas si fréquemment le cas, les charges étaient inférieures aux produits, le résultat serait présenté toujours du côté gauche, mais assorti d'un signe négatif que les comptables matérialisent souvent par des parenthèses, le signe moins se voyant peu. Penchons-nous maintenant, après avoir expliqué ces principes généraux du compte de résultat, penchons-nous maintenant sur la structure, la présentation du compte de résultat. Le compte de résultat peut être présenté de 2 grandes manières. La première, c'est une présentation par nature. Nature, il s'agit des natures de charges. C'est le poste le plus sensible du compte de résultat. Les charges sont classées selon leur nature, selon leur type. Un type de charge, vous allez distinguer ce qui concerne, par exemple, vos matières premières achetées. Vous allez distinguer ce qui concerne votre personnel. Vous allez distinguer ce qui concerne l'usure de vos biens, ce que nous avons appelé dans le module consacré aux actifs non courants, les dotations aux amortissements. Donc on va classer les charges en distinguant les charges entre elles par nature. La deuxième grande famille de présentation, qui est très présente dans la normalisation internationale, dans la normalisation IFRS, c'est une présentation dite par fonction. L'idée de la présentation par fonction est que l'entreprise est découpée en grands cycles, en tout cas pour son activité courante, pour son exploitation. Elle a un cycle de production et on va mettre à ce niveau l'ensemble des charges qui ont contribué à la production, quelle que soit la nature de ces charges, les frais de personnel, l'usure des biens, les matières premières achetées, sans les distinguer, ensemble des charges de production, à la décharge de commercialisation, deuxième grand cycle fréquemment trouvé, et on va mettre à ce niveau l'ensemble des charges qui ont contribué à la commercialisation des biens, salaire des commerciaux, loyer des locaux commerciaux, usure des voitures commerciales utilisées par les équipes. Et nous avons souvent un troisième poste qui concerne tout ce qui tourne autour de l'administration. Vous aurez dedans en particulier le salaire et les amortissements afférents à la fonction comptable, qui est une fonction qui, ainsi qu'on le rappelle souvent au sein des entreprises, ne participe pas directement à la rentabilité de l'entreprise. Elle permet néanmoins de la comprendre et de la communiquer, ce qui est quand même essentiel à la survie de celle-ci. Nous allons détailler un petit peu plus maintenant la présentation du compte de résultat dans ces deux contextes différents, en commençant par le compte de résultat le plus classique en normes françaises, parce que telle est la forme qu'il adopte dans la liasse fiscale que remettent les entreprises au trésor public, le compte de résultat par nature. Compte de résultat comporte donc sur sa droite les produits, alors il y en a de différents types, j'ai retenu les deux principaux. La première grande famille de produits pour une entreprise, ce sont évidemment ses ventes. Les ventes, c'est son chiffre d'affaires, c'est son activité, c'est ce pourquoi l'entreprise existe. Donc ça, c'est les produits issus de son activité. On trouve de manière plus marginale souvent, même si pour certaines entreprises cela peut être significatif, des produits de type financier. Vous pouvez avoir par exemple les intérêts que vous avez reçus sur de la trésorerie que vous aviez placée, des plus-values de cession liées à vos produits de placement de cette même trésorerie. Dans la présentation sociale française, vous avez aussi des produits à caractère exceptionnel. Je ne les ai pas portés sur ce tableau. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont strictement interdits dans la normalisation internationale. On ne peut jamais présenter de produits comme ayant un caractère exceptionnel. En France, que va-t-on trouver dans les produits exceptionnels? On va trouver des choses non récurrentes. La plus fréquente, la plus courante, c'est les produits de cession, des éléments d'actifs, selon la terminologie canonique. C'est les produits de cession des immobilisations. Vous avez une machine, vous avez vocation à l'utiliser, à l'exploiter pour réaliser vos ventes. Vous pouvez néanmoins ponctuellement vendre ces machines, vous en retirez un produit de cession. Ce produit présente, du point de vue français en tout cas, un caractère relativement exceptionnel. Votre activité n'est pas de vendre des machines, votre activité est d'utiliser ces machines pour réaliser votre production. Du point de vue IFRS, la notion de produit exceptionnel n'existe pas dans ce cas. Pourquoi? Parce que vous avez des machines, vous avez un parc de machines que vous êtes amené à renouveler. Le renouvellement de ce parc de machines est aussi nécessaire à votre activité que la fabrication des biens que vous vendez. Donc la cession de ces machines permettant leur renouvellement n'a pas le caractère exceptionnel qu'elle revêt en normes françaises. Différence de point de vue sur un même objet économique assez fréquent en comptabilité, ce qui ne simplifie pas, reconnaissons-le, la compréhension de la comptabilité par les non-comptables. Du côté des charges, le détail est plus grand. Le détail est plus grand. On va trouver un premier pavé avec l'ensemble des consommations externes et internes engagées par l'entreprise pour réaliser ses ventes. Les consommations sont liées aux ventes et l'écart entre les deux va nous permettre de calculer le résultat d'exploitation. De ce résultat d'exploitation, vous allez devoir déduire le coût de votre financement. Ce sont les intérêts payés par l'entreprise, en particulier à son banquier. C'est la principale charge financière, ce n'est pas la seule charge financière, mais c'est la principale charge financière, la facturation des intérêts bancaires. On distingue également la participation de l'État à votre résultat. L'État prélève un impôt et cet impôt sur le résultat est isolé à part. Le total de vos charges est inférieur au total de votre produit, ainsi que vous pouvez le voir sur ce schéma. L'écart entre le total de vos charges et le total de vos produits donne votre résultat, qui est, ainsi que je vous l'indiquais à l'instant, positionné du côté gauche en complément des charges pour atteindre le total des produits. On retrouve ici le tropisme naturel du comptable. d'avoir des états financiers équilibrés. Le résultat permet d'équilibrer votre compte de résultat. Nous allons maintenant voir rapidement ce que l'on trouve dans ces différents postes de charges pour l'essentiel, puisque l'enjeu en termes de présentation du résultat est plutôt du côté des charges. Les produits sont moins nombreux, comme sur le compte en banque d'un particulier. Il y a une ligne de salaire et de multiples lignes de dépenses. Comme pour un particulier, l'entreprise va espérer que les multiples lignes de dépenses ne sont pas supérieures à l'unique ligne de salaire touchée. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les charges? Premier poste de charge, les consommations externes. Les consommations externes sont les biens et les services que l'entreprise achète à l'extérieur. Première de ces consommations externes, les matières premières. Les matières premières sont les biens que l'entreprise va acheter à l'extérieur et transformer avant de les vendre. La notion de transformation est consubstantielle à l'idée de matières premières en comptabilité. Ça va donc concerner en particulier les sociétés industrielles qui vont acheter par exemple des blocs d'aluminium pour fabriquer des voitures. On peut également acheter des marchandises. La distinction que fait la comptabilité entre matières et marchandises, c'est que les marchandises sont revendues en l'état. L'entreprise ne transforme pas les marchandises avant de les céder à ses clients. Ça va être typiquement les achats qui concernent le secteur de la grande distribution. Vous mettez en rayonnage les boîtes de conserve dans l'état dans lequel vous les avez acquises et vous les vendez dans ce même état. Il y a une différence entre les achats et les consommations. Nous l'avions vu dans la partie de bilan consacré à la présentation du cycle d'exploitation, et en particulier avec la présentation de la notion de stock. Une entreprise peut acheter et stocker. Ce stockage vient diminuer sa consommation et cela va donc diminuer ses charges. Une entreprise peut acheter et prélever sur ses stocks afin de fabriquer les biens ou de commercialiser les marchandises qu'elle vend et qu'elle n'avait pas achetées en suffisance. Ce prélèvement sur ses stocks va augmenter ses charges puisque face aux ventes réalisées, il faudra mettre non seulement les achats de l'année, mais également la ponction opérée par l'entreprise sur ses stocks, dont une partie aura été vendue. En dehors de ces achats de matières premières et de marchandises, on trouve aussi dans ces consommations externes ce qu'on appelle en comptabilité les autres achats et charges externes. Le nom, qui est le nom canonique en France, parce que c'est celui qui figure sur la liasse fiscale, remise par les entreprises au trésor, recouvre un ensemble d'éléments assez variés. Vous allez avoir tout ce qui concerne les loyers, vous allez avoir tout ce qui concerne la consommation d'eau, d'électricité, de gaz, etc. Tous ces biens que l'entreprise consomme pour les besoins de son activité. Vous allez avoir les assurances, typiquement. Vous allez avoir l'intérim, qui est aussi considéré comme une charge externe et pas une charge de personnel. Vous aurez également en France les redevances de crédit bail. Il y a des systèmes normatifs dans lesquels les redevances de crédit bail subissent un traitement différent, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. En France, en tout cas, les redevances de crédit bail sont intellectuellement assimilées à des loyers. Donc ces autres achats et charges externes additionnés à ma consommation de matières premières ou de marchandises forment mes consommations externes, première source de charges et vous le voyez tout de suite, source de charges importante pour l'entreprise. Après ces consommations externes, l'entreprise achète également ou paye des consommations internes. Ces consommations internes sont moins nombreuses, mais de montants généralement très importants. Les deux principales, ce sont les frais de personnel et les charges sociales associées aux frais de personnel, hors intérim donc. Consommations internes, pourquoi ? Eh bien parce qu'une relation particulière lie l'entreprise à ses salariés, qui fait que la rémunération versée aux salariés est considérée comme une consommation interne, distincte des rémunérations faites avec les partenaires strictement externes de l'entreprise. Deuxième élément de consommation interne, les dotations aux amortissements. Les dotations aux amortissements que nous avons vues dans la partie consacrée aux actifs non courants. Les dotations aux amortissements qui, rappelons-le, matérialisent l'usure des biens utilisés sur plusieurs années par l'entreprise. Cette usure ne fait pas l'objet d'une facturation. On ne fait pas l'objet d'une facturation, aucun prestataire ne vient facturer l'usure de la machine dont vous êtes propriétaire. Ce sont donc non pas des charges décaissées, ce sont des charges calculées. Et donc une charge d'un type particulier au sein de mon compte de résultat. Nous reviendrons dans la partie consacrée à l'analyse du compte de résultat sur cette notion de charge calculée et non de charge décaissée dans la détermination de l'autofinancement de l'entreprise. Donc deux grands postes de consommation interne, le personnel et les dotations aux amortissements. Cela nous amène assez naturellement à la présentation d'un compte de résultat par nature, tel que le publie une entreprise particulière, en l'occurrence il s'agit du compte de résultat par nature de Danone, si ma mémoire est bonne. Vous retrouvez ici, alors c'est une présentation en liste, plutôt que d'avoir le côté gauche et le côté droit, dans les documents publiés par les entreprises, il y a souvent une présentation en liste, donc les uns en dessous des autres, avec les produits, ici un chiffre d'affaires de 32 milliards, et l'ensemble des charges. Vous voyez ici les achats consommés, il s'agit de mes achats corrigés de ma variation de stock. C'est pour ça que l'on parle de consommation et pas d'achat. Vous voyez ici mes consommations internes, les charges de personnel, les dotations aux amortissements, et on voit les autres charges externes. Ici, vous aurez les loyers, les assurances, les redevances de crédit bail, et toutes ces dépenses de prestations achetées à l'extérieur. Il y a quelques postes qu'on n'a pas encore explorés. Les impôts et taxes, il y a tout sauf l'impôt sur les sociétés qui n'y figure pas. Vous aurez en particulier l'ancienne patente, l'ancienne taxe professionnelle, la contribution économique sur la valeur ajoutée. Vous aurez tout ce qui est taxes foncières, taxes sur les salaires dans certains secteurs d'activité, les impôts et taxes qui ne concernent donc pas l'impôt sur les sociétés, et vous n'aurez pas non plus évidemment la TVA. La TVA qui n'est pas une charge et n'est pas un produit pour l'entreprise et qui ne figure donc pas dans les consommations impôts et taxes. Présentation par fonction, par nature de charge, cette présentation par nature de charge est une possibilité laissée aux entreprises. L'autre possibilité est une présentation par fonction. La présentation par fonction part toujours du constat que vous avez des ventes et que vous avez des intérêts reçus. Et au lieu de se concentrer sur un classement des charges par nature, elle va s'attacher à rattacher les charges au cycle de l'entreprise. Donc vous aurez des charges liées à la production de l'entreprise, c'est le coût de production. Vous aurez des charges liées à la production de l'entreprise, c'est le coût de production. C'est le coût de production que vous voyez apparaître ici. Vous aurez des charges associées à la fonction commerciale de l'entreprise, le coût de commercialisation, salariés chargés de la commercialisation des produits et équipements dont ils ont l'utilité. Vous aurez des charges liées aux autres fonctions de l'entreprise, par exemple aux fonctions administratives ou juridiques, la comptabilité, le droit, éventuellement tout ce qui concerne les frais engagés par les dirigeants, le directeur financier, etc. L'écart entre mes ventes et ces différents cycles contribuant à la réalisation de ces ventes permet de dégager ce qu'on appelle la marge opérationnelle, la marge sur vos opérations. Cette marge opérationnelle va servir à payer un ensemble d'autres éléments, parmi lesquels le premier, c'est le coût de la dette. Le coût de la dette qui est, dans la présentation par fonction, nécessairement distingué à part des autres éléments de charge, car c'est un élément dont l'analyse est importante pour le lecteur des états financiers. Vous aurez également l'impôt. L'impôt qui est également présenté à part. Vous aurez également l'impôt. L'impôt qui est toujours présenté à part, car c'est également un élément spécifique à prendre en compte pour apprécier la performance de l'entreprise. Évidemment, une fois que vous avez payé toutes les charges, ce qui vous reste de vos produits après le paiement de vos charges correspond à votre résultat. Finalement, après avoir payé l'ensemble de vos charges, ce qu'il reste de vos produits après déduction de vos charges correspond à votre résultat. La notion n'est pas différente en résultat par nature ou résultat par fonction. Ce qui va les distinguer, c'est la présentation des charges et plus particulièrement la présentation de ce bloc de charges, car les intérêts de la dette et l'impôt sont identifiés en tant que tels dans les deux systèmes. Caractéristiques donc du système de présentation des charges par fonction, on regroupe les charges par cycle indépendamment de leur nature. On aura un cycle de production qui comprendra toutes les charges qui concernent la production indépendamment de la nature de ces charges, un cycle de commercialisation qui comprendra toutes les charges de commercialisation indépendamment de la nature de ces charges, avec l'obligation toujours pour l'entreprise d'isoler sur des lignes spécifiques ce qui concerne le coût de sa dette et ce qui concerne ses impôts. Quand on parle d'impôts sur les sociétés. Les coûts de production, vous aurez donc les consommations de matières premières, les achats corrigés de la variation des stocks, consommation de matières premières ou de marchandises d'ailleurs, ça dépend des entreprises. Vous aurez les salaires et les charges sociales. Vous aurez les dotations aux amortissements sur les machines, les équipements et l'usine. Machines, usines, etc. Vous aurez l'assurance de cette usine, vous aurez l'électricité de cette usine, etc. Des charges qui sont regroupées dans le cycle de production parce qu'elles contribuent à la réalisation de votre production indépendamment de la nature de ces charges. Dans le cycle de commercialisation, vous trouverez les salaires des commerciaux qui sont souvent un poste important pour la commercialisation. Donc les salaires des commerciaux. Vous trouverez tout ce qui tourne autour du marketing et de la publicité, typiquement. Vous trouverez tout ce qui est dotation aux amortissements des voitures utilisées par les commerciaux, plus de manière plus générale des biens utilisés par les commerciaux. Vous trouverez l'assurance des locaux commerciaux, les loyers des locaux commerciaux, de manière générale, toutes les charges qui, quelle que soit leur nature, contribuent à la commercialisation des biens que vous fabriquez. Des entreprises font le choix d'une présentation du compte de résultat par fonction. C'est un choix assez fréquent dans la mesure où c'est une présentation qui est privilégiée par la normalisation IFRS. Alors, vous avez sous les yeux les états financiers de Renault qui adoptent une présentation par fonction. On voit ici le chiffre d'affaires de Renault, donc ses produits. C'est de nouveau une présentation par liste. Là, vous avez le coût des biens et services vendus. Il s'agit du coût de production. Les frais généraux et commerciaux qui sont regroupés sur une seule ligne et étant donné leur importance, Renault isole les frais de recherche et développement. Alors il s'agit des frais que Renault n'a pas pu inscrire dans son bilan selon les principes que nous avions détaillés lors de la présentation des immobilisations incorporelles, des actifs non courants de nature incorporelle. Il y a obligation pour une partie d'entre eux de les porter au bilan et interdiction quand les critères ne sont pas remplis de les inscrire au bilan. Vous avez tout ce qui tourne autour du cycle financier, du coût de la dette, et vous avez l'impôt, qui est ici, 58, qui est extrêmement faible dans le cas d'espèce. Au-delà de cette différence dans la présentation du compte de résultat, une autre difficulté se pose à la lecture des états financiers, c'est que toutes les opérations qui figurent dans le compte de résultat ne sont pas analysées de la même manière dans tous les systèmes comptables. Il y a des choix qui sont opérés dans la présentation des résultats selon les systèmes comptables. Un exemple classique de divergence entre les systèmes comptables, c'est la question du crédit bail, de ce qu'on appelle aussi la location financière, qui est très différente dans le système comptable français et dans le système comptable international. Le principe du crédit bail, quel est-il? Eh bien, l'idée est assez simple. Une entreprise qui souhaite se financer rentre en relation avec son banquier qui peut lui proposer le plus souvent deux modes de financement particuliers. Le premier, c'est un financement par emprunt. Je suis propriétaire du bien, j'emprunte auprès de la banque le montant nécessaire à le payer. L'autre solution de financement est le crédit bail. C'est la banque qui achète le bien, c'est la banque qui en est propriétaire et la banque me le met à disposition en échange du paiement d'une redevance, l'opération étant souvent assortie d'une option d'achat au bénéfice de l'entreprise à la fin. Elle exploite le bien et au terme de la période d'exploitation, elle peut le racheter pour un montant souvent inférieur à sa valeur de marché. Comment se traite ce crédit bail dans les systèmes français IFRS? Là, côté français, je ne suis pas propriétaire du bien. C'est la banque qui en est propriétaire. Donc, du côté de l'entreprise, le bien ne figurera pas dans mon bilan. Figure au bilan les biens dont je suis juridiquement propriétaire. Je ne suis pas juridiquement propriétaire du bien financé par crédit bail. Il ne figure pas donc dans mon bilan. Je n'en suis pas propriétaire. Il n'y a donc pas de dotation aux amortissements. Je ne vais pas constater l'usure d'un bien qui ne figure pas à mon bilan. Il n'y a pas de dotation aux amortissements. Deuxième conséquence du crédit bail. La redevance que je paye à mon banquier est traitée comme une charge externe, est traitée comme un loyer. Tout se passe comme si j'étais locataire du bien, une location particulière qui est le crédit bail. On va donner l'information de l'existence de cette opération de crédit bail. On n'ira pas au-delà. En norme IFRS, l'approche va être différente. L'exploitation est la même, quel que soit le mode de financement. Que je le finance par emprunt, que je le finance par crédit bail, l'exploitation est la même. Le bien va donc apparaître à mon bilan. Comme il est à mon bilan, je vais devoir l'amortir. Le crédit bail est donc scindé pour sa partie redevance et scindé pour une partie en charge d'intérêt, pour une partie en remboursement de l'emprunt. Car si le bien figure à mon bilan, j'ai en contrepartie un emprunt. Et la redevance est traitée comme une annuité sur cet emprunt. Vous regardez un compte de résultat français. Eh bien, en compte de résultat, le crédit bail se voit uniquement dans les charges externes. C'est le seul endroit où vous verrez l'opération de crédit bail sur une ligne redevance et elle y figurera pour la totalité de cette redevance. En normalisation IFRS, vous aurez dans le compte de résultat les intérêts, la partie intérêt de la redevance. La redevance va devoir faire l'objet d'une analyse comme une annuité d'emprunt, ce qui va nécessiter des travaux financiers particuliers. Vous allez voir une dotation aux amortissements qui, elle, n'est pas liée à la redevance. La dotation aux amortissements est liée à la présence d'un bien dans votre bilan. Et vous aurez un remboursement d'emprunt. Le remboursement d'emprunt va venir diminuer le montant qui figure à votre passif. Donc, le remboursement d'emprunt ne concerne pas votre compte de résultat, il concerne votre bilan. Ce qui est important de voir, c'est qu'au terme de l'opération, la conséquence du traitement du crédit bail, que ce soit en France ou en normalisation IFRS, sera la même. Le résultat cumulé sur l'ensemble des périodes sera le même, quel que soit le système normatif dans lequel je me situe. L'enjeu est, comme souvent, un enjeu de répartition de la performance dans le temps. L'enjeu est, comme souvent, un enjeu de spécialisation de l'exercice. Le compte de résultat donne donc d'une manière qui laisse en réalité bien des marges de manœuvre à l'entreprise le détail de la variation endogène de la richesse de l'entreprise au cours de la période. Variation endogène car il s'agit de la variation de la richesse telle que l'entreprise en est à l'origine, telle que l'entreprise en est à la source. Pour l'analyse du compte de résultat, on dispose d'instruments particuliers, d'instruments presque canoniques que nous allons présenter maintenant dans le prochain module.